Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est une colline, une montagne dont le nom a servi à désigner une ville. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, le Mont-Royal.
À l'époque, c'était vraiment une ville au piémont, entre le montagne et puis le fleuve. Et puis, c'était une ville où il y avait un taux de pollution assez élevé, une densité de bruit, une densité d'habitation. Et les gens travaillaient des longues, longues heures. Donc, la nécessité d'en avoir un lieu de détente a été effectivement une nécessité presque fondamentale.
Les propos de Peter Jacobs, professeur d'architecture du paysage, c'était à notre radio en juillet 1982. C'est un parc où il fait bon se promener, un lieu accessible à tous, à l'écart des nuisances urbaines, symbole d'une ville qui lui doit son nom. Lieu de passage obligé pour les Autochtones, Jacques Cartier découvre la montagne en compagnie des habitants d'Hochelaga et la désigne Mont-Royal. Plus tard, Maisonneuve y érige une croix et des riches marchands anglais en feront leur domaine au 19e siècle. Le parc du Mont-Royal, tel qu'on le connaît, verra le jour en 1876, au prix d'un investissement considérable.
Les Montréalais, habitants du plus grand port intérieur du monde, sont des gens affairés. Heureusement, pour des milliers d'entre eux, un délassement appréciable suivra le travail. Là, tout près, au cœur même de leur ville, s'élève le magnifique Mont-Royal, toujours prêt à les accueillir. De ce coin est de la montagne, observons la ruée de la fin de semaine. Jeunes et vieux, riches et pauvres, amants de la nature ou fervents des sports de plein air, tous se précipitent vers le côté nord du parc Mont-Royal, où les attend un tramway qui les conduira au cœur même de la montagne. En voiture, qu'on emprunte le côté est ou la route similaire qui grimpe de l'autre côté, la montée est longue, mais quelle que soit la façon dont touristes et Montréalais se divertissent à la montagne, tous sans doute éprouvent en commun la même légitime fierté et la même affection à l'endroit de cet immense bouquet de verdure auquel Montréal doit son nom et quelque peu de son histoire. Le Mont-Royal.
Le parc du Mont-Royal, tel que décrit en 1956 par Henri Bergeron, c'était à notre télé. Alors pour nous en parler, mon invité, Jean-François Leclerc, il est consultant en histoire et en muséologie, ancien directeur du Centre d'histoire de Montréal, qui est aujourd'hui le même. Bonjour.
Oui, bonjour.
Réglons la question une fois pour toutes, parce que je l'ai entendu souvent dans les archives. Est-ce que le Mont-Royal, c'est oui ou non un ancien volcan?
Ben, malheureusement, non. Donc, non. La légende, faut l'écarter. En fait, c'est une intrusion de lave, finalement, en profondeur de la Terre il y a extrêmement longtemps. Et ça constitue, en refroidissant, une roche extrêmement dure. Puis là, il faut s'imaginer, ensuite, il y a eu des millions d'années, passage des glaciers, la mer de Champlain, tout ça a été érodé. Alors, le sol a été érodé à profondeur et tout ce qui est resté, c'est ces montagnes-là. Donc, le Mont-Royal fait partie d'une de ces 10 intrusions qui sont aujourd'hui les collines montérégiennes.
Oh ben oui.
Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire. Donc, non, c'est pas un volcan, malheureusement. Mais
bon.
Le Mont-Royal avait la tête très, très dure.
Oui, on va retenir ça.
Oui. Alors,
qu'est-ce qu'on appelle le Mont-Royal? C'est la montagne?
C'est la montagne. Ben, en fait, c'est intéressant. Quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, comme je l'ai fait pour une exposition au Musée des Hospitalières, ben, on se rend compte que le Mont-Royal, ce n'est pas qu'une montagne. Oui, c'est sûr, quand on la regarde du sud ou du nord, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on a discuté un petit peu à percevoir la montagne. Il y a des édifices. Bon.
Mm-hmm.
Et en fait, le Mont-Royal, c'est 3 sommets. Donc déjà, ça complexifie un peu notre regard sur la montagne. Et on peut dire aussi ces 2 montagnes. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais on réalise pas. Mais en fait, le chemin de la Côte des Neiges, c'est un ancien vallon qui sépare donc une petite colline, qui est une partie de la montagne, et les 2 autres sommets. Et les gens avaient eu l'habitude, au 19e siècle, de l'appeler la montagne, et la petite butte qui était du côté du chemin de Côte des Neiges, la petite montagne. Donc, on peut dire qu'il y a plusieurs montagnes dans la montagne. Puis évidemment, aujourd'hui, celle qu'on reconnaît, c'est celle où il y a un parc, mais on oublie beaucoup celle qui est maintenant habitée du côté de Westmount, l'Oratoire et tout.
Donc, bon, aujourd'hui, effectivement, parce qu'on la désigne sous le nom de la montagne, le Mont-Royal.
Ouais.
C'était quoi le Mont-Royal avant l'arrivée de Jacques Cartier? Quel rapport entretenaient les Autochtones avec la montagne?
Bon, c'est sûr qu'il faut se fier sur les fouilles archéologiques, l'histoire, l'anthropologie, la mémoire de certaines nations. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la cosmogonie, dans les traditions autochtones, et comme un peu on voit partout dans le monde, hein, les montagnes, il y a un aspect spirituel à une montagne. Et il semble que les Autochtones, et en particulier les Iroquois qui ont habité dans la vallée du Saint-Laurent pendant quelques centaines d'années, bien, considéraient que la montagne était un lieu sacré, mm-hmm. et où on enterrait même les morts, et ça, c'est toujours important dans la culture autochtone quand on y enterre, bien, même maintenant aussi.
Hein, oui, bien sûr.
Au moment où Jacques Cartier arrive en 1535, il y a un immense, très, très gros village qui s'appelle Hochelaga. On ne sait pas exactement où il était, mais probablement sur le versant sud. Et Cartier et même des Autochtones qui vont être rencontrés ensuite par le père Vimont, qui va venir avec les fondateurs Jeanne-Mance et Maisonneuve, ben, ces gens-là vont dire, ben, écoutez, ici, la terre était extrêmement fertile. Alors, les Iroquois du Saint-Laurent cultivaient la terre, chassaient, utilisaient les ressources de la montagne. Donc, c'est une montagne-ressource, finalement, mm-hmm. extrêmement importante. Et comme c'est un carrefour, Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Iroquois, semble-t-il, de Montréal, qui avaient quand même une puissance commerciale importante, vénéraient un dieu qui était, semble-t-il, plus puissant que le soleil. Alors, Montréal, c'était pas rien.
Oui, en tout cas. Et Jacques Cartier en parle dans ses carnets de voyage, hein, le deuxième voyage. Donc, c'est lui qui donne le nom de Mont-Royal.
Oui, le Mont-Royal, c'est le mont du roi, en
ouais,
fait.
C'est
et c'est, ce nom-là va être traduit sur des cartes anciennes de différentes façons, dont Montréal, qui est une version en ancien français de Royal. Et c'est ce nom-là qui va finalement supplanter le nom de Ville-Marie après la fondation pour désigner ben, toute l'île de Montréal et finalement la ville.
Oui. Pourquoi Maisonneuve, il fait ériger une croix à peu près 100 ans plus tard, là, en 1643?
Alors, le fondateur arrive en mai 1642. Hein, c'est l'image d'Épinal, la messe. On veut convertir les Autochtones. En fait, on veut créer une ville nouvelle, une Jérusalem ouais. où il y aurait Autochtones, Français, bon, qui prieraient ensemble, feraient des enfants. Hein. Finalement, en décembre 1643, sur la petite pointe qui est maintenant la pointe à Calière, où est le musée d'archéologie, il y a une inondation, évidemment. Il y a une petite rivière qui déborde. Bon, et là, Maisonneuve fait le vœu de monter une croix sur le Mont-Royal si jamais le fort est protégé. Et le fort, bon, on va éviter l'inondation et c'est ce qu'on va faire. Mais peu de temps après, la croix va être abattue parce qu'en 1643, au malheur, les conflits entre les Hurons, les Iroquois, les Mohawks, Haudenosaunee, les Hurons-Wendat et les Français commencent à brasser tout ça et ça va être une soixantaine d'années là, de conflits récurrents extrêmement difficiles qui vont mettre à mal, évidemment, la colonie et la montagne, le Mont-Royal, va devenir un lieu de pèlerinage. Ils vont continuer, les pèlerins vont continuer à y aller, mais un endroit extrêmement menaçant, évidemment, dans ce contexte.
Oui, bien sûr.
Oui.
Alors, changement de régime, hein, beaucoup plus tard, là, on fait un bon temps. Après la conquête, le Mont-Royal qui devient plus tard le terrain de jeu des riches marchands anglais. Alors, à qui appartient le Mont-Royal au 19e siècle?
Bien, le Mont-Royal, d'abord, c'est le domaine des Sulpiciens. Le séminaire de Saint-Sulpice, à partir de 1663, ce sont les gestionnaires de l'île, ce sont les seigneurs de l'île. Et un peu comme une municipalité le faisait, bon, ceux qui gèrent l'aménagement des terres, des chemins, les concessions de terres. Et ils vont se garder un domaine, mais ils vont concéder en général à des notables, des riches marchands, des militaires, dès le régime français, une bonne partie de la montagne. Et ces gens-là, ça va être la même chose aussi après la conquête. Donc, ces notables, ces gens qui ont de l'argent, ben, vont s'installer peu à peu sur la montagne parce que c'est l'idée d'avoir une résidence champêtre. Mm-hmm. Ça peut être une résidence très modeste, ça peut être une résidence un peu plus luxueuse. Et ce sont souvent aussi des gentlemen farmers parce que, oui, on s'installe, on a des vergers, on a des jardins et on peut cultiver, on peut louer la terre à des agriculteurs qui vont faire pousser quoi que ce soit. Donc, la montagne, ça devient un espace agricole, mais aussi un espace où on coupe le bois. Donc, on est loin de notre parc actuel avec les interdits qui sont là.
Oui, tout à fait. Puis, ça va expliquer plus tard la présence des grandes institutions anglophones, telles qu'on les connaît au pied du Mont-Royal. Le McGill, entre autres, Royal Vic, ça vient avec ça.
Oui, bien, d'ailleurs, les premiers à s'installer sur la montagne, c'est James McGill, donc mm-hmm. avec sa petite, petite moyenne maison Burnside, mais qui ressemblait un peu à une maison canadienne, comme on dit à l'époque. Et Simon McTavish, donc deux manières de la fourrure extrêmement riches, influents, qui s'installent. Et c'est les premiers qui vont s'installer sur la montagne. Et d'ailleurs, ben, le domaine de Burnside va être donné pour devenir le début de l'Université McGill. Et là, c'est là qu'on va voir graduellement que les institutions... Évidemment, on a au départ, Montréal, c'est Ville-Marie. Donc, c'est une petite ville de rien. Mais à mesure que les faubourgs se développent, et là, on arrive jusqu'à la rue Sherbrooke, le canal de la Chine, les usines, la pollution, et la bourgeoisie va commencer à quitter les anciens vieux quartiers, mm-hmm. au Saint-Antoine, où il y avait aussi des vergers. On va juste déménager la même façon de vivre sur le Mont-Royal. Et le Mont-Royal va devenir vraiment le terrain de jeu et le jardin de cette grande bourgeoisie, surtout anglophone avec le temps, évidemment, qui va remplacer la bourgeoisie francophone, bien que certains notables aussi francophones vont y loger et y installer leur grand domaine.
Ce dit, ça s'inscrit quand même dans un vaste courant dans les villes nord-américaines. La mode est au parc public, hein, partout, à New York, à Toronto, à Boston.
Bien, on est en pleine période d'industrialisation avec tous les problèmes que ça suscite. Et là, les bourgeoisies un peu partout en Amérique du Nord et celles de Montréal regardent partout dans le monde. Là, hein. C'est des gens qui sont connectés un peu partout en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui se fait à Détroit, à New York, à Chicago? Mm-hmm. Et on va se dire, on est à Montréal, on ne veut pas être une petite ville de province. Et ce qui va se passer, c'est que dès 1844, il y a des gens qui vont dire, donc cette bourgeoisie-là va dire, on aurait besoin de faire ce qu'ils appelaient des boulevards, des promenades, mm-hmm. panoramique sur le Mont-Royal. Bon, ça serait une façon de valoriser la montagne puis d'attirer des touristes. Alors, 1844, on est bien avant le projet de parc. Il y a une dizaine de projets comme ça qui vont être déposés devant la ville. Et il faut savoir que la ville, à l'époque, c'est comme un club privé. Hein. Ce sont des hommes d'affaires anglophones. Mm-hmm. C'est des gens qui peuvent avoir des conflits de vision, mais ils s'entendent assez bien sur les valeurs. Et le bon côté de cette bourgeoisie-là, bien évidemment, on regarde ce qui se fait en Angleterre aussi, et c'est cette valorisation de la nature comme étant quelque chose d'important pour s'apaiser. Cette vision-là, le bon côté, c'est qu'elle va amener justement à se dire, cette montagne-là, on a déjà quelque chose de magnifique, qu'est-ce qu'on peut faire avec?
Oui. Puis il y a un courant hygiéniste aussi. Hein. Puis, à l'époque, vous l'avez dit, c'est l'industrialisation. Donc, il y a les miasmes, les odeurs, tout ce qui entoure la ville. On l'a vu au début, c'est dense, c'est bruyant, c'est pas agréable partout. Là, on fait appel à un architecte paysagiste de renom, hein, Frédéric Olmsted. C'est qui et pourquoi lui?
Alors, on vient un petit peu en arrière et ce qui va se passer, la fameuse coupe à blanc, bon là on arrive dans l'histoire qui bouge et qui évolue. Donc en 1869, la ville a déjà décidé d'exproprier des grands propriétaires fonciers, c'est quand même, il faut le faire, là, a demandé l'autorisation au gouvernement du Québec, là, c'est quand même inévitable, $1 million, un emprunt. Mm-hmm. Et on va exproprier pas tout le monde, il y a des influents comme Hugh Allen qui va réussir à éviter l'expropriation. En 1872, un de ceux qui devait être exproprié, qui venait d'acheter d'un autre, tout à coup se sent floué. Parce que, qu'est-ce qu'on va m'exproprier, à quel prix? Mm-hmm. Alors, il va décider de faire une coupe à blanc pour au moins ramasser le bois avant d'être exproprié. Et là, scandale, réunion de citoyens et tout ça. Et c'est là qu'on va pousser la ville à bouger, là, finalement. Et on arrive à 1874. Montréal, qui est une grande ville, il y a 130 000 habitants, c'est pas énorme. Mm-hmm. Donc, il va aller chercher le plus grand architecte, comme on fait maintenant. Là,
celui qui a fait le Central Park. Hein?
Exactement. Donc, on va chercher le plus grand, le meilleur, le plus extraordinaire, qui, lui, va tomber en amour avec la montagne parce qu'il va dire, il va voir les qualités naturelles de cette montagne, même si elle a été abîmée par l'agriculture, la coupe de bois, les carrières. Là. Bon, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et il va dire, au fond, cette montagne-là, ce qu'on doit faire, c'est valoriser son côté montagne. Lui, dans sa tête, comme la bourgeoisie de l'époque, comme les intellectuels de l'époque, il voit beaucoup les montagnes, les Alpes. Hein? C'est comme le modèle des montagnes. On est loin des Alpes.
Oui, quand même.
Mais ce qu'il veut faire, c'est au fond souligner la hauteur en créant des paysages qui, de bas en haut, mm-hmm. vont donner l'impression d'accentuer cette hauteur. Bon, et vous allez avoir des paysages de fougères à tel endroit, et vous allez arriver en haut, vous allez avoir des pins qui vont donner cette impression que vous êtes dans le sommet des Alpes.
Des centaines de mètres.
Exactement.
Oui.
Même si c'est 233 mètres.
C'est pas énorme.
Alors, Olmsted va arriver avec ses plans en 1877, mais on est en pleine crise économique. Et la ville va décider de bouger en 1876, va faire le chemin avant même que les plans soient installés. Alors, Olmsted, on ne peut pas dire qu'il va être très heureux du résultat, puis son projet comme tel ne sera pas réalisé là, à part du chemin puis de quelques mm-hmm. éléments. Alors, il va être extrêmement critique face au résultat à la mentalité de cette bourgeoisie d'affaires montréalaise qui ne comprend pas certains concepts.
Oui, mais il faut être mention du chemin, c'est intéressant, puis c'est terriblement d'actualité. Hein. Dès le début du parc, se pose la question de l'accessibilité. Un parc, oui, mais encore faut-il pouvoir y accéder, puis pas que les grimpeurs. C'est vu comme ça, c'est vu comme une énorme montagne. Qu'est-ce qui est prévu à l'origine pour permettre d'y accéder à ce parc-là?
Olmsted, ce qui est extrêmement intéressant dans son concept, c'est que lui se dit, oui, c'est un refuge, comme mm-hmm. la bourgeoisie anglophone le voit, mais il faut que ce soit un refuge accessible à tous. les personnes âgées, les handicapés. Alors, il prévoit une montée qui tient compte, justement, des capacités physiques des gens. Mais la réalité, évidemment, c'est que ce sont surtout les gens qui ont des carrioles, les gens qui ont de l'argent, on est venu avant la voiture, qui peuvent y avoir accès. Et là, tout à coup, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie francophone, qui commence... Bon, les migrants de la campagne arrivent à Montréal... Mm-hmm. Politiquement, il y a un changement de garde. Et là, les politiciens francophones de l'Est, les quartiers de l'Est qui se développent, vont dire, écoutez, la montagne, là, c'est bien beau, un terrain de jeu pour la bourgeoisie anglophone, ça doit être accessible. Mais pour eux, la montagne, c'est un terrain de jeu, mais autrement que...
Oui, c'est pas la même chose.
Pas la même chose. Alors, ce qui va arriver, il va y avoir des combats épiques. À partir de 1885, un funiculaire. Homestead n'était pas d'accord avec ça. Donc, il y a des gens qui vont dire, comment ça, funiculaire? Ça va durer jusqu'en 1918. Ensuite de ça, projet de tramway. 1895, le premier projet de tramway. Un tollé dans la communauté anglophone. Mais le bon côté, c'est qu'une association de femmes de la communauté anglophone qui va aller récolter 20 000 signatures contre le projet de tramway. On est en 1895. Et cette association, la Montreal Parks and Playgrounds Association, va travailler pour protéger le Mont-Royal jusque dans les années 60-70. Donc, cette communauté anglophone bourgeoise va quand même contribuer énormément à la protection de la montagne. Alors donc, elle va finir par perdre son combat. 1930, le tramway qui monte là où est le chemin Camier-Aude. Pour faire un tramway, il faut creuser. Alors, et quand vous regardez les images, ça vaut la peine d'aller aux archives de la ville et de voir les images. Le Mont-Royal, là, il n'y a pas beaucoup d'arbres là, dans certains coins. Là, c'est des petits cotons. L'image qu'on a du Mont-Royal. Alors, c'est un autre espace qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais évidemment, il va être abîmé par ces infrastructures épouvantables. Mais ça permet aux Montréalais ordinaire, qu'il n'y a pas de voiture, d'avoir accès à la montagne. Et c'est un peu, dans toute l'histoire de la montagne depuis la création, c'est cette tension entre ce refuge naturel et cette accessibilité.
Oui. Refuge pour les bourgeois, puis l'accessibilité pour les populations de l'Est, notamment les ouvriers francophones. Puis plus tard est arrivée la fameuse voie Camillien-Aude, hein, du nom de l'ancien maire de Montréal, donc la route, qui attire les automobilistes, bien sûr, et notamment les amoureux, à une époque où souvent la voiture, c'est un refuge, avec un beau petit point de vue. On va écouter ce qu'en disait, non sans ironie, le chroniqueur Serge Desglin. C'était à notre radio en octobre 1961.
Parlant d'heures et de montres, les agents de police patrouillant le Mont-Royal auront eux aussi une raison de plus de bien la consulter. En effet, nos conseillers municipaux se préoccupent de problèmes très graves concernant la montagne. Il ne s'agit pas du métro qui la traversera, mais des automobilistes qui la traversent nuitamment et qui éprouvent un irrésistible besoin de s'arrêter afin de contempler d'un œil humide le panorama métropolitain reflété, il faut bien le dire, dans les yeux de leurs compagnes. Cet engouement pour le parking nocturne inquiéta si fort nos dirigeants municipaux, avares de tout, même de paysages, que de belles petites affiches toutes neuves ont été plantées dans des lieux susceptibles d'être contemplés. On peut y lire « Défense de stationner plus de 10 minutes ». Après de longues et savantes séances où les statistiques les plus inusitées furent consultées, on en vint cette historique conclusion. 10 minutes est exactement le temps qu'il faut pour se lasser d'un paysage et d'éprouver l'envie d'explorer plus attentivement une source d'intérêt plus palpable, si vous me permettez cette troublante métaphore. Nos amoureux du Mont-Royal seront donc chronométrés par des agents attentifs, probablement expressément choisis pour ce travail délicat. Armés d'un puissant projecteur, ces faucons des ténèbres scrutent l'intérieur des voitures afin de s'assurer que c'est bien du paysage que les passagers ont envie. Et dire que tout cela se passe sur le boulevard Camillien-Aude, un maire qui avait des idées si libérales.
Voilà, bon, ça fait sourire, hein? Non sans ironie, bien sûr, mais ça rappelle aussi que le parc du Mont-Royal est victime de sa popularité avec la voie Camillien-Aude. Ça attire les automobilistes, on y vient en grand nombre. Puis vous l'avez dit, au début des années 60, là, la forêt, c'est loin d'être luxuriant. Là.
C'est pas luxuriant, il y a quand même, c'est un refuge, comme on disait, c'est un refuge pour l'immoralité, selon les valeurs de l'époque. Et ce qui est épouvantable pour nous aujourd'hui, c'est que justement dans les années 50, en 1954, le maire Drapeau, là, qui venait d'arriver, ce moderne moraliste un peu, va arriver avec... va écouter les services de police qui disent il faut régler ce problème-là des taillis puis des arbustes et tout ça. Alors, ils vont faire ce qu'ils vont appeler la coupe de la moralité. Et c'est terrible, quand on voit les photos de l'époque, là, le Mont-Royal, les gens vont commencer à l'appeler le Mont-Chauve.
Oui, hein?
Alors, l'impact va être énorme sur la végétation parce que quelques années plus tard, on va dire qu'il faut replanter, mais on va replanter des espèces qui ne sont pas indigènes, des espèces envahissantes. Alors, ça va avoir un impact terrible sur la nature.
Parce que il faut nettoyer, il faut... c'est le maire Drapeau qui est élu, il veut nettoyer la ville, hein, c'est la moralité. Il faut regarder ce qui se passe derrière les fougères ou les arbres. Hein. mais c'est vrai qu'au mois d'août 61, effectivement, vous l'avez dit, le Mont Chauve, on va écouter Joseph Dumont de la division des arbres de la ville de Montréal au micro de Jean Ducharme à notre radio.
M. Monsieur Dumont, une des principales conclusions de votre rapport, c'est que si on ne fait rien sur le Mont-Royal à l'heure actuelle, d'ici quelques années, cette montagne sera devenue un mont chauve. Qu'est-ce qui vous amène à des conclusions aussi pessimistes?
Avant tout, Monsieur Ducharme, je voudrais faire une petite mise au point. C'est que nous avons déjà fait quelque chose au Mont-Royal, et là où nous avons travaillé, il est certain que le mont chauve ne sera pas.
Mais il faut faire plus.
Il faut faire plus, mais ce n'est pas facile de faire plus. Parce que lorsqu'on travaille avec des végétaux, avec des êtres vivants, il faut y aller progressivement. Notre but est de ne pas remplacer la nature, mais plutôt de l'aider dans son œuvre.
Sauver, mais fragile, document d'archives du mois d'août 1961. Donc, fragile toujours, hein? Quoique, bon, c'est un lieu protégé là, depuis 2005. Le Mont-Royal, on n'y fait pas ce qu'on veut. Puis il y a eu notamment les Amis de la Montagne et il y a des organismes qui veillent quand même.
Tout à fait. Ouais. Il y a, ben justement, ce qui est intéressant dans cette entrevue-là, c'est qu'on voit que le Mont-Royal, c'est un lieu qui a été bouleversé à plusieurs reprises. Mm-hmm. Alors, contrairement à l'image qu'on peut avoir d'un lieu naturel, intemporel, absolument pas. C'est une création humaine de l'histoire et l'expression de la tension entre la vision de qu'est-ce que la nature pour chaque époque, qu'est-ce que l'accessibilité. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des cimetières qui vont s'installer à la fin du 19e siècle.
Ben oui, c'est
alors,
rien,
ils vont
oui.
aussi refaire la topographie, augmenter les remblais pour enterrer les gens. C'est incroyable. Cette montagne-là a beaucoup, beaucoup changé. Mais effectivement, à partir des années 60, ce qui va être intéressant, c'est que il y avait une sorte de fracture ou de divergence de vision entre les anglophones, on généralise en disant ça, et les francophones. Bon, il y avait une sorte de bémol à mettre là, mais dès la fin des années 50, les projets de construction, d'aménagement autour du parc comme tel, de plus en plus vont être contestés. Et c'est là qu'on va voir émerger des groupes de pression qui vont rallier ces visions-là qui étaient, bon, plus ou moins convergentes à l'époque. Et ça va amener justement à la création des Amis de la Montagne, qui vont être un moment très important. Et en 1989, il va y avoir une première entente entre la ville de Montréal, Westmount et Outremont pour coordonner les actions autour du Mont-Royal, sur le parc
c'est
du Mont-Royal.
C'est vrai, il y a trois entités municipales.
C'est ça. Oui. Alors ça, c'est un moment historique, là, bien avant 2005, parce que... Et c'est là où on voit tout à coup émerger l'idée que c'est un patrimoine commun, le Mont-Royal, et on peut pas faire ce qu'on veut. Mais évidemment, à chaque trois ans, il faut redire la même chose.
Oui, bien sûr. Il revient à la charge, mais ça fait partie, effectivement, de tous les débats qui entourent le Mont-Royal. Mont-Royal, lieu de rassemblement aussi, hein, pour les Montréalais, mais à l'échelle du Québec, lieu festif. On va se laisser d'ailleurs, en chanson, un concert mythique, celui de la Saint-Jean-Baptiste en 1975, en pleine fièvre indépendantiste, les grands concerts du Mont-Royal. Ginette Renaud, avec Un peu plus haut, un peu plus loin. Mon invité, je rappelle, Jean-François Leclerc, consultant en histoire et en muséologie, ancien directeur du Centre d'histoire de Montréal, aujourd'hui le même. Merci beaucoup pour votre présence.
Bien, merci, avec plaisir.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier, là-dessus, bonne soirée. À une prochaine, au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.